Écho d'économie.
Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Écho d'économie. La province orientale veut récupérer sa troisième place dans le pays en termes de production et s'active à relancer la production du riz à travers son projet Mouchiele, un projet présenté au cours de la conférence de l'IPAD RDC. L'actualité, c'est aussi la norme mondiale qui garantit la transparence des gains issus de l'exploitation des ressources naturelles. L'ICIE qui l'a établie est en tournée de vulgarisation, d'où son point de presse tenu ce lundi à Kinshasa. Elle s'est ouverte aujourd'hui à Kinshasa, la cinquième session de formation sur les grands métiers de la microfinance. Objectif, permettre aux institutions financières de bien gérer les risques de crédit. Bonsoir à tous. Les secteurs miniers et agricoles constituent le levier du développement de la province orientale. C'est ce qu'a fait savoir vendredi dernier la délégation de cette province aux travaux de l'IPAD RDC. À ce sujet, le président du comité de la promotion des investissements a déclaré que les autorités provinciales ont mis sur pied un programme agroalimentaire dénommé Mouchiele. Ce pour répondre aux besoins sociaux de la population de la province orientale. Constant Moutamba est au micro de Paul Matendo.
Comme partout ailleurs, actuellement levier développement de la province orientale demeure les secteurs miniers. Mais je vous rappelle que la province orientale a des très vastes étendues des terres arables. Et de ce point de vue, le gouvernement provincial a lancé un programme sur l'agriculture, notamment par la mise en place d'un projet Mouchiele. Vous voyez ? Donc ce projet Mouchiele, justement, a pour ambition de pouvoir alimenter la population du riz. La province orientale, je vous rappelle, a été à l'époque productrice de des palmes, cacao, vous voyez, du coton et consorts. La province orientale occupait la troisième place en termes de production. Et donc l'ambition, c'est de pouvoir reprendre également l'agro-industrielle.
Je vous emmène sur terrain en province orientale où le territoire d'Isangui estime sa production de riz à plus de 100 000 tonnes cette année contre 75 000 l'année dernière. Ce sont les statistiques avancées ce matin par l'inspecteur territorial de l'agriculture. C'est à l'occasion du lancement de distribution de 14 tonnes de semences de riz en faveur de près de 500 ménages agricoles du territoire d'Isangui. C'est un appui du gouvernement provincial pour la campagne agricole 2013-2014. C'est ce que nous explique Joseph Bassaï de la radio Bondeko dans ce reportage rendu par Benjamin Yogolelo.
Le riz se classe à la première position sur plus de 10 principaux produits agricoles cultivés à Isangui. Selon l'inspecteur de l'agriculture, la production du riz dans le territoire d'Isangui s'évalue aujourd'hui à plus de 100 000 tonnes par an contre une cinquantaine il y a 3 ans. Ceci grâce notamment à l'intégration des semences de riz de bonne qualité capables de donner le rendement en 3 mois. D'après l'Union des producteurs agricoles d'Isangui, avec ces semences de qualité, les paysans produisent deux fois par an au lieu d'une seule fois avec des semences locales. Le Conseil agricole rural de gestion, CARG, une structure d'orientation de la politique agricole du territoire, évalue à 2 000 $ par an le revenu annuel d'un cultivateur du riz contre 1 000 $ il y a 3 ans. Sur le marché, ce produit a sensiblement diminué de prix. Le sac de 75 kilos coûte 50 $ contre 90 $ il y a 3 ans. Selon l'inspecteur de l'agriculture, avec cette grande productivité, le riz est consommé sur toute l'année dans le territoire d'Isangui.
L'initiative pour la transparence des industries extractives ITE en sigle établit une norme mondiale pour les revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles. Cette norme garantit une plus grande transparence des ressources pétrolières, gazières et minérales des pays, d'après le président exécutif ITE RDC. Bien que la RDC soit suspendue depuis l'année dernière de l'ITE, le président de cette structure dans le pays précise qu'il s'attelle pour l'instant à publier son rapport 2011. D'ici fin décembre 2013 pour que la RDC soit déclarée conforme au processus ITE. Célestin Vounabandi s'est exprimé au cours de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'ITE RDC ce lundi. Il est au micro de Paul Matendo.
Il était question pour nous d'apprendre un peu de ce que cette norme propose. Et à ce sujet, je vous annonce que le comité, ou plutôt l'équipe de l'ITE qui est dans le mur, est à route pour Abidjan où une grande conférence des réunions vont se tenir pour que les pays africains, tous les participants, puissent être davantage renforcés sur le contenu de la nouvelle norme ITI internationale.
Alors, avec la publication du rapport 2013, peut-on espérer que la RDC sera déclarée conforme?
Nous avons déjà un rapport de cadrage, une étude de cadrage déjà adoptée. Que le cabinet KPMG est en train de travailler sur la conciliation des comptes. Tout se passe bien. Nous pensons que d'ici au 31 décembre 2013, nous aurons déjà bouclé les rapports 2011 et nous allons poursuivre l'exercice parce que, comme vous le savez, l'ITIE, c'est un processus. La finalité, c'est d'assurer une transparence totale dans le secteur extractif.
Et ce soir, c'est Karine Damousseau qui nous fait un zoom sur l'ITIE. Bonsoir Karine.
Bonsoir Mireille. Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle, est un processus à travers lequel les parties prenantes mettent à disposition des populations, au moyen de la rédaction des rapports périodiques par des consultants indépendants, les revenus et les recettes de l'État issus de l'exploitation des ressources minières et pétrolières. L'ITIE a été lancé en 2002 par le Premier ministre britannique Tony Blair lors du sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le siège de l'ITIE international se trouve à Oslo, en Norvège. Le but de l'ITIE est de renforcer la bonne gouvernance en améliorant la transparence et la responsabilité dans le secteur des industries extractives à travers la collecte, la vérification, la conciliation et la publication de tous les paiements effectués par les entreprises publiques et privées au compte de l'État. Notons que les pays concernés par la mise en œuvre de l'ITIE sont les pays producteurs de pétrole, de gaz et de minerais. Suite à la révision des règles de l'ITIE en février 2011, tout pays désirant adhérer à l'ITIE doit avoir publié au moins 3 rapports sur la pratique de la transparence dans les industries extractives. La RDC a déjà publié 2 rapports et jusqu'au 1er mars 2013, si elle publiait le 3e rapport sur la pratique de la transparence dans ses industries extractives, elle pourra être déclarée pays conforme à cette pratique ITIE. Faute de ce rapport et pour d'autres raisons également, la RDC a récemment été suspendue pour une durée d'une année de l'ITIE. Sachez qu'actuellement, 33 pays sont conformes à la pratique de l'ITIE dans le monde, dont 12 pays qui ont obtenu le statut de conformité. Et comme vient de le dire le président exécutif de l'ITIE RDC, il s'attelle à publier un rapport d'ici décembre 2013 afin que la RDC soit déclarée conforme au processus ITIE. Car, comme vous pouvez le comprendre, si vous jouissez de cette transparence, celle-ci peut également contribuer à créer une situation équitable pour toutes les entreprises en rendant public ce qu'elles versent au gouvernement, c'est-à-dire que l'entreprise illustre la contribution que son investissement apporte au pays.
En bref, au Kasaï occidental, l'Office congolais de contrôle invite le gouvernement provincial à appuyer le renforcement du contrôle sur les produits alimentaires et pharmaceutiques consommés à Kananga. Le président du conseil d'administration de l'OCC s'appuie sur le fait que le contrôle vise à sécuriser les consommateurs et les opérateurs économiques. En réaction, le ministre provincial de la Santé se dit favorable à cet appel. Il sollicite l'implication de toutes les couches de la population du Kasaï occidental. En Ituri, les activités commerciales ont été paralysées le week-end dernier au centre de négoce d'Ariwara. Cela suite à la mort de 5 commerçants d'Ariwara dans un accident de circulation. La police précise que les marchandises des victimes ont été volées par des pillards. C'est notamment la bière, les cartons de tomates, de savon, des sardines.
Écho d'économie.
Le Fonds pour l'inclusion financière en RDC a lancé ce lundi à Kinshasa sa 5e session de formation pour les cadres et agents des institutions financières sur les grands métiers de la microfinance. L'un des enjeux de cette formation est de permettre aux institutions financières de mettre au point un système de gestion de risque de crédit. Jean-Claude Tetita, directeur général de FPM, explique le pourquoi d'un tel système. Ses propos sont recueillis par Honoré Missing.
J'explique ça très simplement. J'ai tenté de parler de quelqu'un qui vient déposer, par exemple, comme un client d'une institution, tu déposes ton argent dans une institution de microfinance. Demain, cet argent est utilisé pour aller donner du crédit à une autre personne. Quelle est la meilleure façon de pouvoir faire? C'est de s'assurer que la personne qui prend de l'argent d'autrui doit le rembourser. Parce que demain, tu te présenteras devant une agence pour pouvoir réclamer votre argent. Et donc, la gestion des risques consiste à pouvoir minimiser, à diminuer les risques, hein, n'est-ce pas, pour que l'argent qu'on sort de l'institution et qu'on donne aux gens puisse retourner et dans son entièreté. Ainsi, l'institution va tirer un peu de profit parce qu'il a mis les taux d'intérêt. De l'autre côté, l'épargnant peut pouvoir récupérer son argent à tout moment et la personne qui l'a utilisé dans un crédit peut pouvoir tirer des bénéfices parce qu'il a utilisé ça dans une entreprise. Vous comprenez que la gestion des risques est primordiale. C'est pour sauvegarder l'épargne des gens.
Et voilà, et c'est par ici que s'achève cette édition supervisée par Nicole Ngaka, mise en onde par Sylvain Matundu et suivie par vous. Merci. We'll be right back.